Et c'est l'heure du journal, présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. L'accord européen sur le plafonnement des importations de produits agricoles ukrainiens est suspendu, une décision rare, prise sous la pression de la France, de la Pologne et de l'Italie. Explication d'Angélique Boin dans un instant. La qualité de l'air s'améliore à Marseille, Strasbourg et Rouen, mais elle reste mauvaise, alerte l'association Respire. Elle dénonce la décision de l'État d'autoriser ces villes à laisser circuler les véhicules critères 3 dans leurs zones à faible émission au-delà du 1er janvier 2025. La prescription des bloqueurs de puberté limitée au Royaume-Uni et en France, des sénateurs LR veulent en interdire l'administration aux mineurs à qui l'on diagnostique une dysphorie de genre. Antoine Marette nous dira pourquoi. Et puis le dossier de ce journal est consacré à la plus grande commande publique photographique jamais réalisée en Europe. L'exposition « La France sous leurs yeux » est visible à la BNF à Paris. Nous en parlerons avec Benoît Grosin. Le compromis trouvé la nuit dernière à Bruxelles pour limiter les importations de produits agricoles ukrainiens a mécontenté plusieurs États européens, dont la France, ainsi que certains syndicats agricoles. L'accord est-il pour autant remis en question ? Pas à ce stade, se défend la Belgique, qui occupe la présidence tournante de l'Union européenne. Mais on assiste tout de même à une situation assez inédite, Angélique Boin, car l'accord n'a pas été validé ce matin par les pays membres.
Trois des plus grandes puissances agricoles européennes n'y trouvent pas leur compte, la France, mais aussi la Pologne et l'Italie. Alors certes, Paris salue les mesures de restriction automatiques qui concernent le sucre, la volaille et les œufs, auxquels ont été ajoutés quelques produits comme l'avoine ou le miel. Mais la période de référence retenue pour fixer le niveau d'importation jugé excessif et contesté, et nous dit-on, il manque le blé sur la liste, alors qu'en cas d'afflux massif et brutal de cette céréale, un mécanisme d'intervention est pourtant bien prévu par l'accord. Mais à l'approche des élections européennes et alors que les manifestations de paysans polonais reprennent, ces capitales soignent leur électorat agricole et pourraient tout à fait tenter d'obtenir de nouvelles concessions. Au risque de priver Kiev de certaines ressources, dénoncent les partisans du compromis de la nuit dernière. On se focalise sur le blé ukrainien pour des raisons électorales, s'offusque un diplomate. Un autre rappelle que la reprise du trafic en mer Noire permet désormais de réorienter les flux vers l'Afrique. Le blé ukrainien n'est pas le principal problème, abonde une autre source qui cite les importations de blé russe, que la Commission s'apprête d'ailleurs à taxer. Il reste moins d'une semaine pour valider cet accord qui doit entrer en vigueur début juin.
Angélique Boin, Bruxelles pour France Culture. La Commission européenne propose de verser chaque année à l'Ukraine jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide provenant des revenus des actifs gelés de la Banque centrale russe détenue en Europe. Réaction ulcérée de Moscou pour qui il s'agirait d'un vol. La Russie menace l'Union européenne de poursuites judiciaires. Des armes américaines sont-elles utilisées à Gaza par Israël en violation des règles du droit international ? C'est ce que croient savoir deux ONG, Human Rights Watch et Oxfam. Elles ont adressé un rapport à l'administration américaine et demandent à ce que les États-Unis suivent l'exemple canadien et suspendent leur livraison d'armes à l'État hébreu, Thibault Lefebvre.
Pour les deux ONG, le constat est sans appel. Israël ne respecte pas le droit humanitaire international pour deux raisons. L'État hébreu entrave l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et il utilise des armes livrées par son allié américain contre des civils. Sarah Yeager est la directrice du bureau de Washington de Human Rights Watch.
Nous avons été capables, dans certaines situations, de rassembler des preuves qu'il n'y avait, par exemple, pas de cible militaire dans un hôpital. Quand Israël assure qu'il utilise des armes américaines en respectant le droit international, ce n'est tout simplement pas crédible.
Des ambulances auraient, selon le rapport, été visées par des missiles guidés et des munitions au phosphore blanc fournies par les États-Unis auraient été utilisées contre des civils au Liban, ce qui, selon Sarah Yeager, est contraire au droit international, mais aussi à la loi américaine.
Un partenaire n'a pas le droit d'utiliser des armes américaines s'il viole le droit international. Dans d'autres cas, pour d'autres partenaires et les États-Unis, en ont beaucoup, le ministère des Affaires étrangères fait une évaluation et essaie de comprendre comment ces armes ont été utilisées. Ça n'a pas été le cas pour Israël et ça doit absolument être fait.
C'est prévu pour la mi-mai. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, va rendre un rapport au Congrès et donc permettre aux parlementaires d'y voir plus clair sur l'utilisation des armes américaines par Israël.
Thibault Lefebvre à Jérusalem. New Delhi confirme sa place de capitale la plus polluée du monde. La ville a vu sa pollution atmosphérique en partie particules fines augmenté de 10% en 2023. Elle a pourtant fait d'importants efforts pour réduire les sources de cette pollution. Mais ces efforts sont peu visibles parce qu'ils sont partiellement annulés par le changement climatique. C'est ce que conclut le Centre pour la science et l'environnement basé à New Delhi. Sa directrice, Anumita Roy Chaudhuri, nous explique ce phénomène.
Nous avons découvert qu'à New Delhi, il y a eu moins de vent pendant l'hiver dernier que lors de celui de l'année précédente. En moyenne, le vent a été 23% moins rapide. Or, c'est le vent qui permet de disperser la pollution importante qui est enfermée au-dessus de New Delhi pendant l'hiver. Ceci est à mettre en rapport avec le fait que l'année dernière était l'une des plus chaudes jamais enregistrées. Ce réchauffement entraîne une modification du comportement des vents. Le changement climatique va donc certainement avoir un impact sur la pollution atmosphérique et ceci représente une double peine pour nous.
En France, la pollution de l'air est responsable de 40 000 décès prématurés par an, selon Santé publique France. Mais le gouvernement, conscient que des interdictions sans réelle offre alternative provoquent des levées de boucliers, a décidé de faire preuve de souplesse. Marseille, Strasbourg et Rouen étant passés en 2023 en dessous des seuils réglementaires de qualité de l'air, l'État les autorise à laisser circuler les véhicules critère 3 dans leur zone à faible émission au-delà du 1er janvier 2025. Les restrictions de circulation strictes pour les véhicules polluants ne concerneront donc que Paris et Lyon. L'association Respire, qui se bat pour l'amélioration de la qualité de l'air, dénonce une décision politique et malhonnête. Écoutez son président Tony Rinucci.
C'est une décision malhonnête du gouvernement, déjà parce qu'il justifie l'assouplissement en disant que la qualité de l'air s'améliore et qu'on est en train de gagner la bataille. Mais c'est pas vrai de dire ça. La qualité de l'air, elle s'améliore, mais elle reste mauvaise et on reste encore très au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui font foi pour l'urgence sanitaire. Deuxièmement, ce qui ne va pas, c'est que le gouvernement prend pour référentiel les seuils européens en disant « on respecte les seuils, donc c'est bon ». Mais c'est faux de dire ça. On respecte les seuils peut-être, mais ces seuils européens, les valeurs limites à ne pas dépasser, elles sont en cours de révision justement au niveau européen. Et elles sont révisées parce qu'elles ne sont plus adaptées à la réalité sanitaire, à la réalité de l'exposition aux polluants. Donc elles vont être abaissées. Donc dire qu'on respecte les seuils et que du coup les choses vont bien, en fait c'est même très malhonnête finalement comme façon de faire les choses. À Paris et Lyon, on maintient le dispositif, mais c'est dû au fait que la pollution est plus importante, en tout cas celle qui est liée au trafic routier et donc aux polluants du dioxyde d'azote. Ils sont encore sur des niveaux de dépassement qui sont très importants, plus importants dans les autres agglomérations. C'est pour ça que eux passent à une étape d'interdiction des critères trop au 1er janvier 2025. Là, il faut vraiment s'y tenir, et puis de toute façon, c'est la loi même qui les oblige. Donc, j'ai pas l'impression aujourd'hui que le gouvernement veuille ne pas appliquer la loi. Mais bon, rendez-vous le 1er janvier 2025.
Tony Rinucci de l'association Respire, joint par Véronique Reberotte. Une note positive tout de même, la France a accéléré en 2023 sa baisse des émissions de gaz à effet de serre. Selon le ministre de la Transition écologique, le recul a été de 4,8% sur un an. À la surprise générale, le Premier ministre irlandais annonce sa démission. Leo Varadkar, qui était à la tête d'un gouvernement de coalition de centre-droit, invoque des raisons personnelles et politiques. Il part à un an de la date prévue des prochaines élections. Nous allons maintenant au Royaume-Uni pour évoquer un sujet sensible. Le National Health Service, le système de santé britannique, a décidé de faire marche arrière au sujet des bloqueurs de puberté. Ils ne seront plus prescrits aux adolescents en dehors de cas particuliers liés à la recherche. Initialement utilisés pour le traitement des enfants qui présentent une puberté précoce, les bloqueurs de puberté sont devenus un moyen de retarder la transformation physique de jeunes ne se reconnaissant pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Mais les services de santé publique ont choisi de fermer le centre spécialisé dans ce domaine et de proposer une offre plus ciblée, Richard Place.
Le service de développement de l'identité de genre fermera à la fin du mois. Après une enquête indépendante, les autorités constatent que les demandes ont explosé. On est passé de 250 par an, il y a 10 ans, à plus de 5000 désormais. Utiliser les bloqueurs de puberté permet à un adolescent d'empêcher l'arrivée de la pilosité faciale ou à une adolescente de stopper la croissance de sa poitrine, ce qui détermine en fait son apparence féminine ou masculine. Des médicaments qui permettent de limiter les traitements futurs ou même les opérations à l'âge adulte pour vivre pleinement sa transition. identité. Le service dédié va disparaître, mais les adolescents actuellement sous traitement continueront d'être accompagnés. Ils sont moins de 100 au total. Leur protocole va se poursuivre dans les hôpitaux de Leeds et de Londres. Les adolescents n'étaient pas suffisamment suivis, disent les autorités médicales, notamment sur le plan pédiatrique, neurologique et psychologique. Un accompagnement qui sera développé dans deux nouveaux services qui vont ouvrir le mois prochain à Londres et à Liverpool pour une approche plus ciblée.
Richard Place, à Londres et en France aussi, la façon d'aborder la transidentité des mineurs est une question d'actualité. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
Dans un rapport, des sénateurs, les Républicains s'inquiètent de la volonté de certains mineurs de changer de sexe et de leur accompagnement. Pendant près d'un an, ces parlementaires de droite ont auditionné une soixantaine d'experts concernés par cette thématique et ils en tirent, Antoine, des conclusions alarmantes.
Oui, ces sénateurs s'inquiètent de la hausse croissante des demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents ces dernières années. La sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brignaud a présidé le groupe de travail qui aboutit à ce rapport.
L'idée pour nous, c'est d'interdire les bloqueurs de puberté, les hormones croisées et les chirurgies avant 18 ans. Parce que même si les gens ne le savent pas, aujourd'hui, une gamine avec l'autorisation de ses parents peut effectivement avoir une ablation des deux seins à partir du moment où le médecin l'accepte. Hein, c'est possible.
Qu'est-ce qui vous gêne dans les bloqueurs de puberté avant 18 ans? Parce que bloquer la puberté après 18 ans, c'est moins intéressant quand même.
Les bloqueurs de puberté bloquent la puberté. Ça veut dire qu'elles bloquent le développement des seins, etc. Enfin, c'est hallucinant.
Parmi les personnes interrogées pour la rédaction de ce rapport, la coprésidente de Transsanté France, Béatrice Denas, qui dénonce des conclusions à charge contre les enfants trans. Elle précise que la chirurgie de réassignation sexuelle chez les mineurs n'est pas pratiquée en France, sauf l'ablation des seins dans de très rares cas à partir de 16 ans. Même chose quant pour le traitement hormonal qui reste exceptionnel. Quant aux bloqueurs de puberté dénoncés par la sénatrice, Béatrice Denas ne voit pas où est le problème.
Les bloqueurs de puberté s'annexent sur un temps court. Ensuite, ils sont très peu prescrits. Et d'un autre côté, quand on dit que c'est expérimental, c'est complètement débile, puisque les bloqueurs de puberté existent depuis des décennies. Ils sont prescrits à des enfants qui ne sont pas trans, des enfants cis, tout simplement quand ils ont une puberté précoce. Donc en fait, on est en train de faire peur à tous ceux, toutes celles qui ne connaissent rien à la souffrance des transidentités lorsqu'elles ne sont pas écoutées. Et simplement, un enfant trans pourrait faire sa transition sociale sans médicaments, simplement être ce qu'il ressent.
C'est sur la base de ce rapport dénoncé par Béatrice Denas que la droite sénatoriale va déposer une proposition de loi avant l'été avec un objet, interdire toute transition médicale avant l'âge de 18 ans.
Antoine Maret. À quoi ressemble la France des années 2020? L'exposition « La France sous leurs yeux » qui vient d'ouvrir ses portes sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France donne un aperçu des travaux des 200 lauréats de la commande initiée par le ministère de la Culture en 2021. Radioscopie de la France, regard sur un pays traversé par la crise sanitaire. Cette grande commande pour le photojournalisme pilotée par la BNF avait un double objectif, dresser un panorama de la société post-Covid dans toutes ses composantes et également soutenir financièrement la profession face à la crise de la presse. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Avec un budget de près de 5,5 millions d'euros, il s'agit, Benoît, de la plus grande commande publique photographique jamais réalisée en Europe.
Les photographes sélectionnés ont bénéficié chacun d'une enveloppe de 22 000 euros pour leur reportage au long cours pendant un an et demi. Un an et demi de prise de vue qui raconte les mutations de la société, selon Héloïse Canesa, conservatrice pour la photographie contemporaine, la BNF.
C'est une commande historique, inédite, qui reflète les multiples visages de la France des années 2020. Le rapport à la jeunesse, au troisième âge, toutes les problématiques autour de l'agriculture et des nouveaux modes d'agriculture raisonnée. Ça raconte absolument la société et la mise en commun de ces 200 reportages permet de documenter une histoire de la France post-Covid, mais aussi de la France d'aujourd'hui.
Avec des photographes chevronnés et aussi de jeunes débutants dans le métier comme Léo Doriano, qui a travaillé sur la vie des adolescents à Joigny dans l'Yonne.
Ayant fini mes études il n'y a pas si longtemps, ayant traversé le Covid comme jeune photojournaliste, c'est une première vraie grosse commande pour moi, j'ai 26 ans, et cette bourse à la fois financière et de liberté de temps m'a permis de vivre comme un adolescent pendant un an et demi, d'être avec eux, de faire ces images en étant de l'intérieur avec eux. Et aujourd'hui, ça légitime aussi ma pratique, ça la rend professionnelle, là ça l'ancre dans une réalité qui est encore plus importante à mes yeux.
Et les femmes photographes ont pleinement participé à cette grande commande publique. Dans un milieu toujours dominé par les hommes, la parité est presque respectée avec 40% de lauréates, parmi lesquelles la photojournaliste France Kayser de l'agence Myop.
Moi, cette grande commande, elle m'a permis de continuer mon travail sur les musulmans de France. 22 000 euros, c'est pas rien. Ça m'a permis de faire de nouvelles photos et aussi de m'acheter du matériel. C'est pratiquement une année de ce qu'on gagne habituellement, donc ça permet d'être un peu tranquille, quoi. Et de conserver, bien sûr, ma carte de presse. Moi, j'ai beaucoup moins de commandes en presse qu'avant. Moins de titres, moins de pagination et moins d'argent.
Et cette crise de la presse, Benoît, touche l'ensemble de la profession.
Sur les 200 lauréats de la commande publique pour le photojournalisme, tous collaborateurs réguliers de la presse nationale et internationale, seuls 40 d'entre eux, lors de leur sélection, détenaient la carte de presse. La profession est en péril, selon le photographe Pierre Ciotte, vice-président de la SAIF, Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe.
Pour l'instant, on va vers une disparition du photographe, du statut de photographe de presse. En 2015, donc il y a 10 ans, il y avait 1400 cartes de presse de photographe. Et en 2023, on se retrouve avec 277 cartes de presse. Donc une descente aux enfers qui continue de s'accentuer. Et la grande commande, même si c'est une très bonne nouvelle pour une partie des photographes, n'est évidemment pas la solution pour résoudre la crise du photojournalisme dans ce pays. D'un point de vue général, on attend de l'État qu'il intervienne plus auprès des groupes de presse pour faire pression, pour qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient adaptées pour enrayer cette diminution du nombre de photographes de presse. Alors nous, on porte une série de mesures depuis plus de 20 ans qui seraient que déjà la loi elle soit appliquée partout dans les organismes de presse, et en particulier pour faire des journaux, il faut des journalistes et il faut des journalistes photographes. Donc il faut que les journaux, tout confondu, hein, en France on a une presse qui est conséquente, et donc il faut que ces journaux ils aient plus de commandes auprès de photographes, qu'ils soient indépendants ou en agence.
Et des photojournalistes, Aurélie, privés de cartes de presse, réclament aujourd'hui en tant qu'artiste-auteur un filet de sécurité par l'obtention d'un statut comparable à celui des intermittents du spectacle.
Merci Benoît Grossin. Photojournalisme à la BNF, une commande historique face à la descente aux enfers de la profession. Votre dossier est en une du site de France Culture sur la page Info Culturelle. Et puis le changement de tête à la BNF a été officiellement confirmé en Conseil des ministres. Laurence Angèle ne sera pas reconduite. C'est Gilles Pécou, l'actuel ambassadeur de France en Autriche, qui a été choisi pour la remplacer. Il prendra ses fonctions le 18 avril. Nous parlions un instant de photojournalisme. Quelques mots pour évoquer le sort du journaliste congolais Stanis Boujakera, sorti de prison hier soir. Correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence de presse Reuters, il avait été condamné à 6 mois de prison ferme, peine purgée au titre de la détention préventive. Quelques heures après sa libération, Stanis Boujakera a fait cette déclaration.
Comme tout le monde le disait depuis le 8 septembre 2023, ma place n'était pas en prison. Ma place était dans ma rédaction. Et donc, nous nous sommes prêts jusqu'au bout à porter avec tout le monde, tous les collègues journalistes, et ces combats du journalisme indépendant. C'est très difficile. Ce que je vais dire comme dernier message à tous les journalistes, face à l'oppression, résistez. Face aux intimidations, face aux menaces, face à toutes sortes... Donc je disais d'intimidation, ne reculez surtout pas, ne trahissez surtout pas la profession, restons professionnels, n'ayons pas peur. Nous sommes là, debout, pour continuer de faire ce que nous savons faire, donner l'information à la population.
Le journaliste Stanis Boujakera à Kinshasa. Google, de nouveau pointé du doigt par l'autorité de la concurrence. La filiale française du géant américain se voit sanctionnée d'une amende de 250 millions d'euros pour ne pas avoir correctement rémunéré les médias dont elle utilise les contenus sur son moteur de recherche. Bonsoir Julien Morcelli.
Bonsoir Aurélie.
C'est l'épineux dossier des droits voisins qui revient sur la table.
Oui, puisqu'il s'agit de la quatrième décision rendue par l'autorité de la concurrence en 4 ans. Tout commence en 2019, lorsque la France décide de transposer une directive européenne sur le droit d'auteur. Cette dernière impose aux plateformes comme Google de rémunérer les journaux, les magazines ou encore les agences de presse lorsqu'elles utilisent leur contenu sur leur moteur de recherche. Sauf qu'en 2020, plusieurs médias saisissent l'autorité de la concurrence car ils considèrent que Google ne joue pas le jeu. L'année suivante, le géant américain est condamné à une première amende de 500 millions d'euros. Il va ensuite changer d'attitude et signer une série d'accords avec des entreprises de presse pour mieux les rémunérer.
Sauf que l'autorité de la concurrence juge aujourd'hui que ces accords ne sont pas respectés.
Et sur les 7 engagements pris en 2022, 4 ne sont pas respectés, dit aujourd'hui l'autorité de la concurrence, qui reproche à Google de ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse pour évaluer leur rémunération. L'autorité reproche également à Google d'avoir utilisé des contenus de presse pour entraîner son application d'intelligence artificielle, l'application Bard, sans en avoir averti ni les éditeurs, ni l'autorité de la concurrence. De son côté, le géant de la tech, qui ne conteste pas la décision de l'autorité, se dit surpris et déçu. Le groupe rappelle verser chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros au titre des droits voisins. Il faut admettre que les autres plateformes ne font pas mieux, bien au contraire. Meta rémunère seulement un petit nombre d'éditeurs pour l'utilisation de leur contenu sur Facebook. Et X, le nouveau Twitter, n'en rémunère aucun. La plateforme d'Elon Musk a d'ailleurs récemment été assignée en justice par l'agence France Presse sur cette question des droits voisins.
Julien Morcelli, le temps sera ensoleillé demain sur une bonne moitié ouest du pays, variable ailleurs, gris à l'est avec quelques averses. Les températures minimales iront de 6 à 13 degrés du nord au sud. Les maximales varieront entre 15 et 24 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Et tout de suite,